Alors, ce matin, nous débutons une nouvelle série qui s'intitule « Relations ». Ce matin, vous savez, quand je fais des célèbres des mariages, arrivé le moment où je vais donner le message, je fais tout le temps un avertissement aux gens qui sont dans la salle. Je m'excuse d'avance, je vais vous tourner le dos parce que je vais m'adresser aux mariés. Mais, c'est pas parce que je vous tourne le dos que vous pouvez pas écouter et ce que je vais dire ne s'applique pas à vous. Alors, ce matin, je vais m'adresser aux hommes. Et là, les femmes font « Yes, enfin ». Écoutez bien, parce que ça se peut que ça s'adresse à vous aussi. Fermez pas les oreilles, allez pas sur votre ciel, faites pas comme « Ah, je sais, une chance qu'il dit ça », parce que non. On a tendance à faire ça, « Ah, ce verset-là, c'était pour telle personne ». C'est peut-être pour toi aussi. Et je m'adresse aux hommes, et le sport préféré des hommes, c'est pas le hockey, c'est pas le football. C'est pas le baseball, c'est pas la ringuette, c'est pas le curling, c'est pas le billard. De toute façon, le billard, c'est pas un sport. Non, c'est l'autruche. Le sport préféré des hommes, c'est l'autruche. Se mettre la tête dans le sable. Garder ses trucs pour lui-même. Être un homme, c'est être orgueilleux. Être un homme, c'est jamais être faible. Être un homme, c'est ne jamais être vulnérable. Eh bien, ce matin, on va parler de vulnérabilité. Là, j'ai l'attention des femmes aussi, c'est le fun. Le texte qu'on va lire pour débuter se trouve dans Genèse 3, les versets 7 à 10. C'est dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. » Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ben, c'est encore comme ça que ça fonctionne. Pensez-vous certainement, sérieusement, que Dieu ne savait pas où Adam et Ève étaient? Il savait. Mais il voulait qu'il sorte de sa cachette. « T'es où, Adam? Je te cherche! » En fait, je sais t'es où, je n'ai pas besoin, non, je ne joue pas à cachette avec moi. Il n'y a pas de « Où est Charlie? » Je sais t'es où, Adam. Et là, Adam, après avoir pris la pomme, après, et ensuite de ça, il fait comme « Oh, qu'est-ce qu'on a fait là? » Et découvert qu'on est nu. Imaginez-vous, dans le temps, il n'y avait pas de vêtements, puis tout le monde, c'était comme normal. C'est sûr qu'il était deux, là. Mais là, leur univers vient de changer complètement. Et là, la honte s'est installée. C'est le premier moment où la honte est entrée dans le cœur de l'homme. Et le premier réflexe que la honte fait, c'est quoi? C'est se cacher. On n'a jamais tricoté de notre vie, mais là, ça se passe aujourd'hui, on invente le tricotage. Fait que toutes les personnes qui aiment, parce que là, je ne fais pas de distinction, ça se peut que, messieurs, si votre sport, c'est le tricot, bien à vous. Moi, je ne me trouve pas dans cette zone-là, mais je respecte ça. Mais ils ont décidé de se faire, il faut qu'on se camoufle, il faut qu'on se cache. Le premier designer de mode ever, c'est Adam. Feuille de figuier. Ça va sûrement revenir à la mode à un moment donné. Il dit, j'ai eu peur. La peur n'existait pas. J'ai découvert que je suis nu. Je ne pouvais pas me présenter devant Dieu. À cause de la honte. À cause de ce qui était derrière moi. Puis là, j'ai voulu me cacher. Et c'est ce qu'on fait souvent. Quand il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, ou quand on sait qu'on a mal agi, on veut se cacher. Même, on n'a pas besoin d'enseigner ça aux enfants. Quand un enfant a fait un mauvais coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. On sait que quand on a des jeunes enfants qui sont silencieux dans la maison, ce n'est pas bon signe. Et s'il y a un animal de compagnie, c'est sûr qu'ils vont faire passer ça, pas sur Ève, mais sur le dos du chat, du chien, du raton laveur, on ne sait pas. Parce que la honte fait qu'on se cache et on veut trouver un coupable. C'est pas nous, c'est pas vraiment nous. On l'a pas vraiment fait. Ouais, mais si tu savais. Et on est bon pour se camoufler et se cacher. Brené Brown a dit, la honte se tient dans le stationnement de la reine et attend que tu sortes défait et déterminé à ne jamais prendre de risques. Elle rit et dit, je te l'avais dit que c'était une erreur. Je savais que tu ne serais pas suffisant. La résilience à la honte, c'est la capacité de dire, ça fait mal. C'est désappointant, peut-être même dévastateur, mais le succès, la reconnaissance et l'approbation ne sont pas les valeurs qui me définissent. Ma valeur est le courage et être courageux, tu peux déplacer la honte. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Malheureusement, souvent, c'est quelque chose dont on ne parle pas. De dire, qu'est-ce que je fais avec ma honte? Si je vais perdre ma crédibilité. Ici, j'aime cette partie-là parce qu'elle mentionne, elle dit l'approbation, le succès, la reconnaissance et l'approbation ne sont pas les valeurs qui me définissent. Parce qu'en tant qu'homme, et même en tant que femme, souvent, on veut avoir l'approbation, on veut la reconnaissance. Et c'est notre valeur, ce qu'on va projeter chez les gens. L'image qu'on va projeter chez les gens, c'est ce qu'on va définir comme succès dans notre société, mais pas d'être authentique et vulnérable. Vous savez, moi, je suis pour l'égalité. Les femmes, malheureusement, ils devraient avoir le même salaire que les hommes pour le même poste dans la société. Et la femme a entièrement sa place dans l'Église. Je ne suis pas sexiste, féministe et tout ça. Je crois. Mais il y a des distinctions à l'intérieur. Et cette semaine, j'ai très clairement vu la distinction entre un homme et une femme. Depuis quelques années, je joue au hockey, je suis gardien de but dans une ligue avec seulement des hommes. C'est pas une affaire de macho, là. Mais c'est notre ligue de gars. Et là, j'ai commencé à gauler pour une ligue de filles le jeudi. Et les deux sont le fun, mais c'est différent. Puis là, je ne parle pas des lancers au but, des jeux, des jeux de passe. Oui aussi, mais et de l'intensité du jeu. Mais j'ai vu clairement cette semaine la distinction. Dans notre ligue de gars, là, on joue pour gagner. On a un site internet avec, pas juste le score, avec les moyennes de gardien de but, les stats des joueurs, les lancers, tout. Parce que quand tu es un gars, tu veux gagner. On joue pour gagner. Puis c'est à la limite trop sérieux des fois, là. Sérieusement. Et là, tu n'as pas le choix, c'est compétitif. Tu arrives le jeudi, nous, on joue pour avoir du plaisir. On ne compte pas les buts, on ne sait pas qui gagne. C'est pas grave si on n'est pas dans la même équipe et qu'on score dans notre but. On ne regarde pas l'heure qu'on commence, on ne regarde pas l'heure qu'on finit. Il n'y a pas de période. C'est de toute beauté. Et là, ça m'a démontré. J'ai été fiberglassé cette semaine. J'ai joué lundi, je me suis donné comme un fou. On a perdu par un but, puis tout le monde est comme « Ah! » De même, là, tu es comme « Oh non, on a perdu! » Puis là, « Non, mais mes stats! » Puis... Et jeudi, c'est correct. Tout est beau. On s'amuse. Et c'est le fun. Mais c'est différent, comprenez? C'est pas une question d'être... C'est une question qu'il faut accepter qu'on est différent. Et ici, justement, cette valeur-là qu'on cherche en tant qu'homme de réussite, de succès, de « je suis un homme, je suis un entrepreneur, il faut que j'aille mon nom, là, il faut que je sois dans l'avancement », on n'a pas toujours tout, on cherche le succès, on cherche la valorisation, pas nécessairement au bon endroit. La honte nous pousse à l'orgueil, au jugement, à la rigidité et à l'isolement. C'est ça que la honte fait. La honte nous pousse à être encore plus campés dans notre orgueil. Et c'est là où on joue vraiment à l'autruche. Notre sport préféré, c'est l'autruche, parce que là, on va juste tout cacher. On dira, dis rien. Ça nous pousse à l'isolement. Et c'est pas pour rien qu'au Québec, on a un taux au niveau des hommes de suicide qui est hallucinant. C'est parce que notre sport préféré, c'est l'autruche. Parce qu'on n'a pas appris à être vulnérable. Et encore moins dans l'Église. Parce que dans l'Église, tu fais face à Dieu, tu fais face aux autres chrétiens, tu fais face au jugement, tu fais face à la critique, tu fais face à... Tu vas te faire mettre une étiquette, tu ne pourras plus t'impliquer à tel endroit. Et là, tu fais comme... T'étouffes. Et là, tu fais, je suis mieux de continuer à facer tout ça. À garder mon image de bon chrétien, à garder tout ça en dedans, garder ma honte, m'isoler et à devenir rigide. Et souvent, quand on fait ça, c'est quoi qu'est-ce qui va transcender de cette réaction-là? C'est qu'au lieu justement d'arriver devant Dieu, de s'humilier, puis de vouloir changer, puis de dire « voici », de confesser, bien, on s'isole, on est encore plus dans notre orgueil, on devient encore plus rigide, et ce qu'on fait, c'est qu'on devient rigide et exigeant envers les autres. Nous, on est là, mais les autres, il faut qu'ils soient là. on n'a pas le même standard. Alors que Dieu, lui, veut que nous soyons vulnérables, authentiques et que nous expérimentions sa grâce. Il veut qu'on expérimente sa grâce. Imaginez à quel point Dieu a envoyé son Fils, mais son Fils a délibérément choisi d'être vulnérable. C'est ça que Jésus a fait. Il s'est rendu vulnérable pour nous. Il a encaissé la honte pour nous. Pour dire, regarde, si moi je l'ai faite pour toi, imagine à quel point je vais t'accueillir. Et je vais te faire grâce. Jesse Kimura dit, la vulnérabilité peut devenir notre plus grande force parce qu'elle brise les murs et nous amène profondément à l'intérieur de notre expérience humaine. Tout le contraire d'Adam. On va se cacher, on ne dira pas qu'est-ce qu'on a fait. Et quand on dit qu'est-ce qu'on a fait, ce n'est pas vraiment nous, c'est elle. La femme que tu m'as donnée, by the way. Pas ma faute, je ne l'ai pas choisie. C'est elle qui a fait ça, là. Si ce n'était pas de elle, on ne serait pas là. Je te le garantis, je serais encore tout nu, il n'y aurait pas de figuier, là. Puis je n'aurais pas honte. Mais là, quand on décide d'être vulnérable, quand on prend le courage, le risque d'être vulnérable, ça brise les murs et ça nous amène profondément à l'intérieur de notre expérience humaine. Dans le psaume 51, les versets 3 à 5, David, une fois justement, qui était pris dans ses transgressions, qui au début, lui aussi, il a décidé de camoufler et de dire, ah, « quel homme a fait une abomination comme ça? Il a couché avec la femme d'un autre, mais après ça, il a fait tuer là, son mari pour ne pas être pogné parce que là, finalement, je l'ai mis enceinte. » Puis, quelle histoire de fou! Sérieux! Puis, on n'est même pas sur Netflix. « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Finalement, David a décidé, a choisi d'être vulnérable. Vulnérable au point, pas juste devant Dieu, pas juste devant ses proches. Il est vulnérable devant nous. Il l'a écrit. Il l'a écrit. Et aujourd'hui, on peut le lire et on voit qu'est-ce que ça fait. Ça a libéré David. Ça n'a pas excusé, ça n'a pas effacé ce qu'il a fait. Mais ça a changé sa vie et sa vie avec Dieu. Brené Brown, encore une fois, dit « Nous ne pouvons embrasser la vulnérabilité si la honte étouffe notre sens de dignité et de connexion. » Et souvent, c'est ça. C'est que la honte étouffe notre dignité, étouffe notre sens de connexion avec Dieu, de connexion avec les autres. Parce qu'on a peur, encore une fois, du jugement. On a peur de ce que les autres vont dire. On a peur de la critique. On a peur du rejet. Et si vous êtes honnête, messieurs, ça, ce n'est pas des choses qu'on dit le dimanche au dîner, là. Ou même en gars, on n'en parle pas tellement. Mais si on est honnête, oui, la honte nous étouffe. Et on préfère présenter une image qui n'est pas la nôtre, plutôt que de se montrer vulnérable. Vous savez, il y a des groupes éléments pour les hommes, puis on peut discuter de trucs de la Bible, de trucs de théologie et tout ça, puis c'est bien, là. On peut discuter du fait qu'on a une croix avec un Jésus dessus, en arrière. Et pourquoi on a une croix, en fait, avec un Jésus? Parce que quand on a acheté l'église, il y avait une croix avec un Jésus. C'est une œuvre d'art, une pièce. Imaginez le sculpteur qui a fait ça. C'est hallucinant. C'est la seule croix qui a un Jésus ressuscité. Et on n'adore pas ce Jésus-là, by the way. On peut s'ostiner sur un paquet d'affaires, mais si on rentre là-dedans, on ne s'en sort pas. Si vous avez des enfants puis ont une Bible pour enfants, ben vous devez l'acheter à ce moment-là parce qu'il y a un dessin de Jésus. Écoutez pas la série La Bible ou l'ancien film de Jésus parce qu'il y a un Jésus dedans. Mais on peut discuter de trucs qui ne changeront pas nos vies, qui sont tellement secondaires et tellement tertiaires. Mais si on décidait de juste être honnête et authentique et discuter des vraies affaires, de juste se parler honnêtement, de juste s'ouvrir, et c'est ça qui va apporter la vraie transformation. Parce que tant qu'on n'est pas vulnérable, vous savez, des fois, on va lire dans 2 Corinthiens 3, 17, c'est dire, hey, je suis transformé de gloire en gloire, et là, on dit, hey, je ne suis pas capable, moi, je n'y arrive pas, je ne suis pas délivré. Tu ne peux pas l'être tant que tu n'es pas vulnérable. Parce que tant que tu n'as pas fait le pas, Dieu ne peut pas aller plus loin que toi. pas qu'il n'est pas capable, tu ne lui donnes pas l'accès de le faire. Dans le psaume 139, les versets 23-24, ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le psalmiste ici va faire justement ce travail-là, il va dire « Seigneur, connais mon cœur, sonde-moi, regarde où je suis et mets la lumière où elle devrait être dans ma vie. » Et après ça, c'est à moi de faire le nécessaire avec la lumière qui est sur ma vie. Jonathan Merton a dit, je dois vraiment laisser l'amour de Dieu se déverser à travers mes endroits brisés et d'arriver à véritablement connaître l'amour de Dieu dans les endroits de ma vie qui semblent être les moins aimables. Et ça, c'est difficile. De laisser vraiment l'amour de Dieu devenir dans les endroits où je suis moins aimable. Et là, mesdames, faites pas un coup de coude en disant, moi j'en connais des endroits où tu n'es pas aimable. C'est pas le moment, là. Je suis déjà assez sur son cas, laissez-le tranquille un peu. Parce qu'on a tous des endroits moins aimables. Mais on a besoin de faire comme le psalmiste, c'est de dire, laisse, viens, Seigneur, déverse ton amour et ta grâce jusqu'au plus profond de mon être. Jacques 5, 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La confession. Et ici, on est dans une ancienne église catholique. À l'arrière, sur les côtés, il y a des confessionnales. Et souvent, on est bon, les évangéliques, pour dire tout ce que les catholiques ont fait de mal, mais des fois, on n'est pas mieux qu'eux autres. On était aussi religieux, aussi idolâtres, aussi hypocrites. Et le confessionnal, pour moi, ça a été, il y a eu de l'abus, il y a des trucs. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, j'allais au confessionnal, puis là, tu t'inventes une histoire pour aller dans le confessionnal. J'ai pas été gentil avec ma sœur, je vais dire ça. Mais le but du confessionnal, c'était justement d'être capable de dire les vraies affaires. Malheureusement, ça a mal tourné. C'était quelque chose de bien à la base qui a mal tourné et qui devient des fois un truc justement pour extorquer, manipuler ou whatever. Mais on a besoin de retourner à cet élément-là parce que c'est biblique. Puis là, c'est confesser le péché aux uns et aux autres. Là, on ne fera pas la ligne en avant matin, chacun un micro. Ce n'est pas ça le deal. Puis on ne peut pas confesser n'importe quoi, n'importe qui. By the way, mais il y a des gens dans nos vies où on considère comme des gens privilégiés, des gens à qui on a confiance, des gens, des amis, et c'est à eux qu'on devrait. Et entre hommes, souvent, on ne le fait pas. Même quand on se rencontre entre boys, on va jaser de quoi? La fabuleuse, extraordinaire saison du Canadien. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dedans, mais des fois, je ne comprends pas qu'on en jase autant que ça. Là. C'est tellement mauvais. On va jaser du Super Bowl, on va jaser de ma nouvelle tondeuse, on va jaser de tellement de choses insipides, mais on n'est pas capable d'être vulnérable. Parce que ça appartient aux femmes. Eux autres sont émotives, c'est normal. Eux autres, ils jouent au hockey pour avoir du plaisir. Nous, dans la vie, on a une réputation. J'ai une moyenne à maintenir. Mais on a besoin d'arriver à ce point-là. Parce que quand on réalise que Jésus, le premier pas qu'il a fait, c'est d'être vulnérable. Ça dit qu'il s'est, dans Philippiens 2, ça dit qu'il s'est dépouillé lui-même volontairement de sa royauté, de tout ce qu'il possédait. Il est devenu vulnérable vers nous pour dire, je prends la forme d'un être humain pour pouvoir être capable de vivre ce qu'un être humain vit, ressentir ce qu'il vit, la honte, la peur, la solitude, le rejet. Pour être capable, après, d'arriver dans sa vie et de dire, « Je te comprends. Je ne suis pas une statue à quelque part. Je ne suis pas un pèlerinage que tu dois faire. Je ne suis pas un endroit où tu vas aller. Où tu... » Non, je suis là pour toi et pour entrer dans ta souffrance. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Un des plus grands obstacles dans nos relations est « et si ». C'est ça. Parce que des fois, on se dit, OK, je vais arriver à tel point, puis OK, je vais dire ça. Mais il y a tout le temps le « et si hein, ». C'est ça. « Et si je le dis, qu'est-ce qui va arriver ?» Et si, et on se trouve tout le temps des excuses et des défaites pour ça. « Et si », c'est ce qui nous arrête. Mme Brown, encore une fois, dit, « Je définis la vulnérabilité comme l'incertitude, le risque et l'exposition des émotions. La vulnérabilité est l'endroit où naît l'amour, l'appartenance, la joie, le courage, l'empathie, la redevabilité et l'authenticité. » Et souvent, on regarde justement à dire, et si on regarde tous les trucs mauvais, le rejet, l'étiquette qu'on va nous mettre, on va se faire critiquer, juger. Mais j'aime l'idée ici que quand on devient vulnérable, il y a un autre côté à ça. C'est là où naît l'amour. C'est là où on expérimente la grâce de Dieu. C'est là où on peut avoir l'appartenance parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous écouter, la joie, le courage. Parce que le vrai courage, c'est d'être capable de parler. Le vrai courage, c'est pas d'être capable de tirer une voiture à bout de bras. C'est ça le vrai courage. Une des actions les plus violentes, c'est pas de frapper quelqu'un. C'est pas de dire des insanités à quelqu'un. C'est le silence. Et souvent, le silence est l'action la plus violente envers nous-mêmes. C'est ce qui va nous porter à nous isoler encore plus, à devenir encore plus orgueilleux, encore plus rigide, mais aussi encore plus malheureux. Le silence devrait être un endroit où j'écoute ce que Dieu veut dire, ce qui vient en moi et qui fait juste, OK, c'est arrête de garder ça pour toi. Mais le silence ne devrait pas être une action violente envers moi. Anna Kundel dit, la chose qui est très difficile et vraiment incroyable, c'est de laisser tomber l'idée d'être parfait et commencer à travailler à être nous-mêmes. La société nous montre, nous pousse à être parfait. Nous pousse à montrer juste nos belles photos de voyage. Nous pousse à rajouter un filtre pour pas vraiment montrer nos rides. Nous pousse à démontrer une image qui n'est pas la réalité ou une infime partie de la réalité. Mais c'est peut-être le moment, messieurs, de commencer à travailler à être nous-mêmes. La personne que Dieu a créée, la personne que Dieu veut qu'on soit, pas la personne que les autres veulent qu'on soit, pas les personnes que la société veut qu'on soit, pas la personne que l'Église veut qu'on soit, la personne que Dieu a créée pour être elle-même. Dans 2 Corinthiens 12, les versets 8 à 10, une des personnes les plus rigides, il y a probablement un peu d'orgueil aussi, pas mal. Dieu a décidé de l'asseoir à un moment donné. Et pour lui faire un petit talk. C'est dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce message-là est à l'opposé du message que la société nous demande, messieurs. Complètement à l'opposé. Et en fait, avant cet épisode-là, Paul était de l'autre côté. Voici l'image qu'il faut que tu présentes. Voici comment tu dois être. Pour moi, Paul, à bien des égards, il est too much, pour vrai. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été amis. Il a dit des belles choses, il a fait plein de belles choses, mais il y a une partie que c'est trop pour moi. Mais j'aime ce moment-là où il a décidé lui aussi d'être vulnérable. Puis d'accepter de dire, OK. J'ai réalisé une chose. Moi, je pensais que quand j'étais fort, quand je montrais, voici tout ce que je fais pour Dieu, voici comment est-ce que je suis. Wow, tu sais, l'apôtre Paul. Et Dieu dit, j'en ai rien à cirer de tout ça. Je veux que tu réalises que c'est quand tu n'as plus rien à offrir, plus rien à donner, quand il n'y a pas personne qui peut t'acclamer, qui peut dire quoi que ce soit pour ta prédication, whatever. Et c'est quand tu es faible que tu es fort, parce que là, c'est là que moi, je peux faire ma job. C'est quand tu arrêtes de jouer à l'autruche. C'est quand tu arrêtes de cacher ta honte. C'est quand tu choisis de devenir vulnérable que tout peut changer, que tes relations peuvent changer. Madame Voskamp a dit, les blessures peuvent ouvrir sur la beauté en nous et nos faiblesses peuvent être le récipient de la gloire de Dieu. Le brisement peut produire l'abondance. Le miracle arrive dans le brisement. Parce que Dieu vit où se trouve la souffrance, et la souffrance est l'endroit où Dieu donne la plus grande guérison de l'intimité. Encore une fois, Jésus, décide de se rendre vulnérable pour en faire quoi? Entrer dans notre souffrance. C'est la seule divinité qui a choisi délibérément d'entrer dans la souffrance de l'humanité. Souvent, on prêche beaucoup la victoire. Mais sans la souffrance, il n'y a pas de victoire. Parce que la victoire n'existe pas. Le lundi soir, quand on gagne, c'est parce qu'on a souffert. Je peux vous le dire. Mais c'est la même chose avec Dieu. Jonathan Edwards a dit, un sage ami à moi m'a dit, la véritable maturité spirituelle est rien de plus et rien de moins que de consentir à la réalité. Parce que qu'on le veuille ou non, souvent, suivre Dieu, c'est un beau camouflage. Quand on connaît tout le verbatim, quand on connaît tout le langage des croyants, quand on connaît toute la façon dont ça fonctionne, c'est facile. Savez-vous, c'est quoi tout ça? C'est notre ceinture de figuier. Parce que comme ça, on peut juste bien paraître que les gens nous aiment. Mais en fait, on n'est pas vulnérable, donc on n'est pas nous-mêmes. Et des fois, on vit plus. La spiritualité peut devenir un endroit où on vit dans un monde seconde, quatrième dimension. Et on fuit la réalité avec la spiritualité. Quand en fait, la spiritualité devrait nous ramener à la réalité. Et c'est dans la réalité que la guérison et la transformation arrivent. Je termine avec cette citation de K.J. Ramsey qui dit « Si l'Église traitait la souffrance comme une histoire à raconter plutôt qu'un secret à garder jusqu'à ce qu'elle passe. » Wow! Parce que c'est vrai. On traite ça comme une histoire à raconter à un moment donné. On devrait plutôt regarder ça comme ça, plutôt qu'un secret à garder. Et l'autre partie, je termine avec ceci. Le verset de Colossiens 3, 12, 14 dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns aux autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité ou de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et c'est ça qui va faire toute la différence. Comment on accueille la personne qui décide d'être vulnérable? Ça, c'est l'autre partie de l'Église. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Et on veut te remercier parce que t'es définitivement pas comme les autres divinités. Toi, quand tu avais tout, tu avais la royauté, la puissance, la science, le confort éternel, tu as choisi délibérément de devenir vulnérable, de te dépouiller de toute ta royauté, de revêtir la condition humble d'un être humain pour vivre la souffrance. Merci de l'avoir fait. Et merci aujourd'hui, Seigneur, parce que ce que tu as fait il y a 2000 ans nous permet d'avoir accès à toi. De retirer notre ceinture de figuier. D'être capable d'être complètement authentique, vrai, nous-mêmes, nous aussi vulnérables. D'être capable de te confesser notre honte, Seigneur. Et d'être capable aussi de confesser, pas, d'être vulnérable pas simplement sur la souffrance, sur les trucs, mais d'être capable d'être vulnérable sur les belles choses, d'être capable de dire « je t'aime », d'être capable de dire les choses qui nous rendent joyeuses, les choses que l'on voit qui sont beaux et qui sont belles, Seigneur. Et que l'on puisse, chacun d'entre nous, ne pas jouer à l'autruche, ne pas jouer à Adam, mais que l'on puisse commencer à choisir d'être David, Seigneur. D'être vulnérable. D'être capable de dire les vraies affaires et d'accepter de recevoir ta grâce, ton amour déversé dans les moindres raccoins de nos vies et d'être capable de vivre cette libération et transformation que tu veux nous apporter, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble, on va terminer avec un chant.